Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage. D'ordinaire, vous connaissez mon slogan, 2 heures de bonne humeur pour vous, de stress et d'angoisse pour eux. Aujourd'hui, exceptionnellement pour Halloween, ça sera 2 heures de bonne humeur pour eux et 2 heures de stress et d'angoisse pour vous. Effet spécial Europe 1. Oui, aujourd'hui, chers auditeurs, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent, comme d'habitude, pour vous offrir la meilleure chronique. Vous votez, comme d'habitude, mais tout va être mis en place pour vous faire flipper. Première disposition que nous avons prise, demandez à Eva Rock de venir exceptionnellement sans maquillage.
J'ai vu le monstre et je l'ai vu de mes yeux. C'était comme une bête hurlante dans la nuit.
Oh, n'exagérons pas. Bonjour Eva Rock.
C'est nul parce que c'était ma vanne. Je voulais m'auto-vanner en vous disant, vous avez vu, j'ai mis mon masque d'Halloween. Je me suis pas maquillée.
Ah, ça aurait été pas mal aussi, ben remarqué. Voilà. On pourra la garder au montage, celle-là. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Mais d'abord, on accueille notre invité arbitre du jour. Très franchement, sans nous lancer des fleurs, c'était l'invité idéal pour Halloween.
Michel Sardou, hein.
Non, encore plus flippant. Le roi de l'horreur made in France, Maxime Chatham, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Insectes aux éditions Albin Michel. Et Insectes, c'est pas une faute de français, c'est un petit jeu de mots rapport à celui qui fait peur dans le livre, les insectes.
Exactement, les insectes et les sectes dans l'ensemble. Je me suis amusé avec des jeux de mots et essayer de faire peur aux gens avec toutes ces petites bêtes, vous savez, qui nous grouillent dessus quand on dort. Et
ah, il en fait pas beaucoup pour me faire peur.
Je ne rajoute pas.
Oui, c'est terrible. Insectes sort chez Albin Michel. On va en reparler, mais d'abord, je vous présente les forces en présence cet après-midi, Maxime Chatham. D'habitude, ils sont 2 journalistes à s'affronter à chaque manche. Aujourd'hui, Halloween oblige, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans cette première partie de l'émission, vous devrez départager un journaliste et une vedette qui sera en ligne avec nous, même si certains pourraient arguer que Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1, est aussi une vedette. Cinéphile averti, il adore les films d'horreur devant lesquels il a toujours des réactions très viriles.
Ah là là.
Bonjour Monsieur Charrier.
Bonjour à tous.
Pour cette spéciale Halloween, vous nous parlez de ces tournages de films d'horreur qui ont été plus horribles encore que le film lui-même.
Exactement, quand il y avait de l'horreur sur le plateau avant qu'il y ait de l'horreur à l'écran, vous verrez, il y a
mais
plein de petites
fréquent,
anecdotes. Ça arrive.
Il y a eu des morts.
Ça arrivait surtout.
Est-ce qu'il y a eu des morts?
Il y a eu des morts et ça arrivait surtout il y a quelques années maintenant avec les effets spéciaux qu'on a. On n'a plus besoin comme ça de trafiquer.
Mais quand il y avait des cascades.
Mais voilà, quand c'était à l'ancienne, parfois ça pouvait dégénérer.
Face à vous, Mathieu Charrier, en duplex de son manoir de Saint-Tropez, une grande amatrice d'horreur qui tenait à interviewer Maxime Chatham, dont elle a dévoré tous les livres, faute de pouvoir dévorer. Enfin bref, bonjour Amanda.
Oh, bonjour Matounet, Coco, chérie darling en sucre.
Alors Amanda, déjà merci de votre participation exceptionnelle à l'équipe sauvage. Je sais que vous êtes très prise.
Oui, mais le quart de footballeur vient de partir, donc c'est bon, je suis tout à vous.
Surprise d'Halloween, vous proposerez tout à l'heure à Maxime Chatham, non pas un questionnaire de Proust, mais un questionnaire de Frousse.
Mais oui, Matounet, bonbon au miel, ce n'est pas Amanda la clubeuse aujourd'hui, c'est Amanda la journaliste, l'intervieweuse. Je vais vous montrer qu'on peut en avoir dans la caboche et dans la guêpière. Claire Chazal, si tu nous écoutes, prends des notes.
On dirait Franck Ferrand.
J'en suis déjà tout moite. Ce mélange d'Amanda Lear et de Franck Ferrand est épatant. Voilà pour le programme. L'équipe est sauvage, c'est parti.
L'équipée sauvage.
C'est donc le maître français de l'horreur, Maxime Chatham, qui nous accompagne cet après-midi à l'occasion de la sortie de son dernier roman, plus terrifiant que jamais. Le titre Insectes, c'est très délicat parce qu'on a peur de trop en dire. Ce que je peux dire, c'est qu'avant de lire ce livre, je disais à mon fils, arrête de faire ta chouchotte, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Finalement, je lui dis plus. C'est quand même très inquiétant ce livre.
C'est une bonne morale. Non, mais ce qui est toujours amusant pour un romancier, c'est de regarder quelles sont les choses qui nous font peur dans l'ensemble à tous. On a la peur du noir, on a et les tueurs en série, c'est un grand classique ça. Mais les petites bêtes, les insectes, on peut s'en servir de plein de manières différentes. J'ai essayé d'illustrer ces moments de frousse comme ça avec toutes nos scènes du quotidien, quand on dort, la bouche ouverte, quand on prend sa douche, quand on lit un bon bouquin. D'ailleurs, le livre commence comme ça.
Ah oui, rien que le premier chapitre, c'est horrible.
Et donc, de jouer sur la peur des insectes. Et puis finalement, les insectes, c'est là que ça devient amusant pour le romancier. C'est que c'est une bonne métaphore de la société dans laquelle on vit. Nous sommes les insectes, une immense fourmilière. Et j'en ai joué à double titre, d'où le jeu de mots sur le titre du roman.
Insectes. Comment vous expliquez en fait Halloween aujourd'hui? Comment vous expliquez cette envie de se faire peur? C'est un peu contre-intuitif. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de se faire peur? Et pourtant, tout le monde adore ça. Tout le monde adore les films d'horreur. Vos bouquins se vendent à des millions d'exemplaires. D'où ça vient ça? D'où ça vient chez vous?
Parce qu'on aime jouer en fait avant tout. Moi, la peur, c'est différent à titre personnel. C'est juste que ça me permet d'aller explorer des zones a priori assez inconfortables, mais dans lesquelles finalement on va trouver pas mal de choses intéressantes sur ce qu'on est individuellement, mais aussi collectivement. un thriller, c'est juste un prétexte pour divertir les gens, mais en réalité pour se poser les bonnes questions sur le monde dans lequel on est. Moi, je sais que j'ai une bonne idée, non pas quand d'un coup, tiens, je me dis, tiens, je pourrais terminer un livre comme ça, c'est un truc qui serait amusant, les gens ne vont pas voir venir. Non, c'est quand j'ai ce genre d'idée-là, mais surtout que je sais ce que ça va me permettre d'illustrer comme réflexion sur le monde, etc. Une des questions essentielles dans ce bouquin, c'est est-ce qu'on peut donner le pouvoir à quelques individus sans savoir d'où ils viennent, sans aucun contrôle ? Tous les grands patrons des entreprises aujourd'hui, les GAFA notamment, en l'espace de même pas une génération, en moins de 20 ans, ils sont passés de inconnus à maître du monde, à façonner les destinées de milliards d'individus. Et personne ne leur demande aucun contrôle, personne ne sait d'où ils viennent, et ne serait-ce que un bilan psychiatrique, c'est peut-être juste des grands dingues qui ont une ambition destructrice pour le monde. Mais quand ils ont des milliards et des milliards à leur service, finalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, le livre pose cette question-là. Nous sommes au service de quelques reines, comme ça, et dans cette fourmilière qu'est le monde.
Le livre de Maxime Chatham est néanmoins disponible sur Amazon, quand même, même si Jeff Bezos n'a pas fait encore le test psychologique. Eva Rock.
Mais c'est cette idée-là qui a préconisé le bouquin. C'était vraiment l'histoire des GAFA.
Qui a préconisé le bouquin. Je ne suis pas sûr qu'une idée puisse préconiser quoi que ce soit, Eva. Mais reformulez peut-être votre question, on comprendra mieux. Vous obtiendrez peut-être une réponse intelligente en formulant une question.
Maxime Chatham me comprend, c'est ça. En fait... Non, c'est cette idée-là qui a fait que vous écrivez ce livre-là, où il y a aussi l'ambiance un peu écologique, fin du monde, dont on parle régulièrement dans les médias.
Non, parce qu'en fait, la première idée du bouquin date d'il y a plus de 10 ans de ça. J'avais envie de raconter un livre qui... en fait, un jour, je vois des insectes comme ça dans la forêt en baladant, et je me dis quand même, je vais regarder combien il y en a sur la Terre, parce que c'est une biomasse qui doit être monstrueuse, et je me rends compte qu'il y a plus d'un milliard d'insectes par être humain. Ah ouais, donc en fait, si un jour ils se mettent à discuter entre eux, quoi, on est mort. On est des frigidaires sur pattes, donc on tiendra une semaine. Et là est née une petite idée, tiens, est-ce que je pourrais pas raconter une enquête policière dans différents endroits du monde, et on comprend pas, les morts, c'est des squelettes, ils ont été nettoyés en quelques heures. Et petit à petit, en fait, c'est le début de la fin du monde, parce que les insectes se mettent à communiquer entre eux. Et puis j'avais cette idée-là, mais je dis oui, sauf que ça illustre quoi ? Qu'est-ce que ça va me permettre de raconter sur le monde dans lequel on est ? Et puis cette idée reste dans un coin de ma tête pendant des années, et petit à petit, à mesure que je voyais le monde, etc., vous savez, le romancier, c'est ça, hein, on ne fait pas grand-chose que d'observer et ensuite trouver des prétextes pour s'amuser à vous raconter des histoires. Moi, les miennes, c'est juste que j'essaie de vous faire peur. Et donc à un moment, c'est assemblé tout un tas de petites notions, d'idées, etc., jusqu'à ce que je puisse avoir ce roman qui était à la fois du divertissement, les insectes faire peur, etc., mais aussi poser les bonnes questions.
Un roman qui fait peur et qui fait réfléchir. Insectes, c'est chez Albin Michel. Maxime Chatham est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, notre spécial Halloween continue avec ces films d'horreur dont le tournage a été marqué par des incidents encore plus terrifiants que le scénario lui-même. Mise en abîme terrible qu'Eva Rock vit au quotidien depuis qu'on est filmé et que des écrans de retour ont été installés dans le studio.
Je vois ma tête à la caméra et j'ai eu peur. Mais non, c'est horrible.
Éloignez les enfants du poste, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage spécial Halloween continue avec Maxime Chatham dans le nouveau roman Insectes, écrit UN, entre parenthèses, E, secte, c'est le jeu de mots, est disponible chez Albin Michel. On continue d'en parler, mais Maxime, vous le savez, la compétition n'attend pas, et j'ai envie de dire, lui non plus. Dans le showbiz, il y a deux stars réputées pour leur intransigeance, ils ont d'ailleurs les mêmes initiales, Maria Carré et Mathieu Charrier. Le vice-chef adjoint délégué du service culture d'Europe 1, qui la dernière fois, pour épargner l'humiliation à un collègue qui s'était trompé à l'antenne, a choisi de ne pas piper mot. En revanche, hors antenne, fonction dictaphone de nos mobiles enclenchés, il se montrait beaucoup plus loquace.
Si j'avais été de mauvaise humeur, j'aurais porté réclamation. Là, après, je me dis, bon, vas-y. Mais voilà, sachez que je ne laisserai pas non plus passer 3-4 fois ce genre de sottise.
Sinon, il se passe quoi ?
Je démissionne.
Monsieur Charrier, on l'a vu. Vous êtes naturellement horrible, mais vous étiez donc le journaliste idéal pour évoquer ces tournages de films d'horreur où l'horreur est devenue réelle.
Ouais, c'est ça. Je voulais revenir sur certaines conditions de tournage où le résultat à l'écran est presque moins pire, comme dirait l'autre, que ce que les acteurs ont dû faire sur le plateau. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez d'Entretien avec un vampire, porté notamment
film culte,
Tom Cruise, Brad Pitt. Un vampire, vous savez, ça doit avoir la peau très blanche, et puis on doit voir un peu les veines qui ressortent. Et ben, le réalisateur, Knight Jordan, plutôt que de faire du maquillage, il s'est dit, bouge pas, je vais obliger les acteurs à suspendre pendant quelques secondes par les pieds avant chaque scène.
Non.
Si, c'est vrai. Comme ça, vous savez, on va avoir un afflux de sang, un afflux sanguin, et hop, on va voir leur veine. C'est ce qu'il a fait pendant tout le tournage. À chaque fois, ils disaient, allez les gars, hop, c'est parti.
Mais ils étaient Brad Pitt et Tom Cruise.
À l'époque, ils étaient moins connus.
Ils étaient un peu moins connus parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils enverraient leur doublure.
Le publiciste dirait hop, hop, hop. Oui, oui. Ensuite, dans Halloween, justement, puisqu'on est de John Carpenter, puisqu'on est dans une spéciale Halloween, vous vous rappelez peut-être que John Michael Myers, qui a assassiné sa petite fille, se retrouvait dans un asile psychiatrique un peu étrange. Eh bien, ces scènes, elles avaient été tournées dans un vrai hôpital psychiatrique, un ancien hôpital psychiatrique abandonné à Prague, qui était tellement flippant que les acteurs eux-mêmes étaient complètement effrayés dans le lieu et le réalisateur devait leur diffuser des espèces de musique joyeuse pour essayer de rassurer tout le monde parce que tout le monde était complètement prostré, c'était vraiment le monde à l'envers.
On parle aussi cette semaine, Mathieu, de la sortie de Dr. Sleep, oui. La suite de Shining. Là aussi, le tournage du film de Stanley Kubrick avait été éprouvant.
Ah bah oui, l'actrice Shelley Duvall qui joue Wendy Torrance, la femme de Jack Nicholson, elle a tellement été effrayée par ce tournage qu'elle faisait des crises d'hystérie sur le tournage. La production avait mis en place toute une organisation pour que des bouteilles d'eau soient à sa disposition à n'importe quel moment afin qu'il y ait des petits assistants qui puissent immédiatement lui donner à boire pour pas qu'elle se déshydrate et qu'elle parte dans des crises incontrôlables. On comprend pourquoi elle a cette tête à l'écran, vous savez, à la fin, elle est complètement effrayante rien qu'à voir sa tête.
Elle était naturellement sans maquillage. Dites-moi, mais il y a une question sur Shining, ça a vraiment été tourné dans cet hôtel glauquissime là.
Alors, oui, bien sûr.
C'est pas une scène de studio, il y a pas une combinaison
non,
de.
Non, c'est formidable. Et d'ailleurs, dans la suite, on retourne dans l'hôtel. Rien que pour ça, il faut y aller.
Il y a une autre anecdote que vous aimez bien, Mathieu.
Vous savez, le film Candyman, à un moment, l'acteur Tony Todd, il a des espèces d'abeilles qui sortent de sa bouche, des dizaines d'abeilles qui sortent de sa bouche. Ben, ils se sont dit plutôt que d'aller prendre des fausses abeilles ou de faire des effets spéciaux à l'époque, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre des vrais. Alors, ils avaient fabriqué un espèce de dentier pour lui protéger la gorge et la cavité intérieure.
Et vous, ça vous fait rire. C'est
que j'imagine, aujourd'hui, vous demandez ça à n'importe quel acteur américain, c'est inenvisageable.
Même sur Plus belle la vie, vous demandez ça à un acteur, il ne le fait pas.
Mais là, donc, il prenait les abeilles avant la scène, avec son espèce de dentier, là, et puis au moment où ça tournait, il ouvrait la bouche, et hop, il y a toutes les abeilles qui partent. Moi, je ne l'aurais pas fait personnellement, j'aurais quitté le tournage.
Maxime Chalam, vous l'auriez fait?
Non, mais vous m'excitez.
Il me regarde avec ses petits yeux.
Et vous aviez une anecdote sur le tournage de L'Exorciste aussi.
Célèbre scène de salle de bain, les acteurs, vous savez, ils avaient une espèce de buée qui sortait de la bouche. Bah là aussi, plutôt que de s'en kikiner à faire de la fausse buée, à l'époque, William Friedkin il s'était dit bougez pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les enfermer dans un espèce de frigo géant. Ils vont avoir tellement froid, c'est vrai, sans que les acteurs au début soient au courant. Il les a mis dans un espèce de frigo, top, température à 0 degré. Alors là, je peux vous dire qu'il y avait de la buée qui sortait de leur bouche. Et puis aussi, à certains moments, ils tiraient avec un fusil à pompe en vrai, hein, en l'air, il faisait tirer un assistant pour qu'il soit surpris, vous savez, qu'il y ait une vraie réaction naturelle, quoi, pour pas que ce soit fin. Une dernière anecdote pour la route, on en parlait hors antenne avec Maxime Chatham dans Poltergeist, vous savez, dans la piscine, cette célèbre scène, il pleut, l'actrice est entourée de cadavres, ben là aussi, vous me voyez venir. En fait, ça coûtait trop cher d'aller chercher des vrais squelettes, des faux squelettes en plastique, etc. Donc la production s'est dit bougez pas, on va prendre des vrais squelettes, ça va coûter pas grand chose. Ils ont fait ça, ils l'ont pas dit à l'actrice, elle a découvert à la fin du tournage. Et d'ailleurs, après ce tournage, il y a beaucoup d'acteurs qui sont morts. Il y a Dominique Dune qui incarnait la sœur aînée qui a été assassinée.
Une malédiction.
Il y a deux autres acteurs qui sont morts, dont une petite fille de 12 ans, elle a fait une crise cardiaque. Certains pensent que c'est peut-être l'esprit de ces cadavres et de ces squelettes qui sont venus hanter le film et les acteurs.
Juste un nouveau roman pour Maxime Chatham en perspective.
Pardon, mais ils sont allés chercher où les squelettes en question?
Savez,
à la morgue ou...
Oui, sans doute.
Mais c'est horrible.
À la morgue. Merci Mathieu Cherrier, mais vous connaissez ma perversité légendaire, excitée encore plus par le fait qu'on soit Halloween. Voici la question vache de l'autre candidat. Amanda, vous êtes toujours avec nous?
Bah ouais, je suis toujours en direct de mon manoir. Il y a des enfants qui ont sonné chez moi pour avoir des friandises. Je suis sorti en nuisette. Ils auraient peur de leur vie, je peux vous le dire. Alors Mathieu Charrier,
oui,
j'ai vu votre photo sur le compte Twitter. Alors, j'avoue que je dormirai pas dans la baignoire. Bref, j'ai une question cinéma d'horreur pour vous, puisque vous parlez de cinéma d'horreur. Voici trois films. Donnez-moi le faux. Poultrygeist, un film avec des poulets zombies. Piranaconda, un film avec un anaconda piranha. Et Toilettor, un film avec des WC serial killer. Lequel est le faux, Mathieu Charrier?
Toilettor, c'est pas possible.
Bravo, Mathieu Charrier. Vous avez gagné un massage à l'huile de vidange.
Oui, calmez-vous, Amanda, on vous retrouve tout à l'heure.
Avec plaisir.
Maxime Chatham, je vous demandais.
Pardon. Le plus effrayant, c'est quand même qu'il y a un film qui s'appelle Poultrygeist.
Poultrygeist, ouais. Piranaconda, c'est pas mal aussi.
Piranaconda,
je vais aller chercher sur internet.
Vraiment, à mon avis, il y a 2-3 dialogues gratinés dans Piranaconda en version française. Maxime Chatham, on parlera tout à l'heure des projets d'adaptation de vos romans. Je crois que vous, à la base, vous rêviez d'être acteur.
Non, c'était une erreur.
Ah, vous reniez ça?
Non, c'est pas que je le renie, mais c'est, en fait, j'ai pensé qu'être acteur me sortirait du quotidien, que ça me permettrait de vivre mille vies, etc. En réalité, c'était pas le cas. Il fallait être un peu trop le VRP de soi-même, tout ce que j'aimais pas. Moi, je suis plutôt solitaire. Hein. Je suis le type qui habite au fond de la forêt et qui peut être très heureux sans parler à quiconque pendant 3 mois. Donc,
Mais pourtant, plus je vous vois, plus je trouve que vous ressemblez à Ben Affleck, ce qui vous aurait permis une belle carrière au cinéma, probablement.
C'est un beau compliment.
Mais c'est vrai.
J'attends la vanne qui va suivre.
Non, il n'y a pas de vanne. Son nouveau roman est disponible chez Albin Michel. Insecte, Maxime Chattam est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, d'habitude, c'est le principe de notre émission. Les journalistes sont opposés à d'autres journalistes. Mais aujourd'hui, Halloween oblige, Mathieu Charrier va devoir affronter une concurrence bien plus redoutable que celle d'un collègue journaliste, celle d'Amanda. Je sens que vous avez peur, Mathieu.
Vous voulez que je vous dise ce qui me ferait peur ? C'est d'avoir une érection.
Oui, alors, qu'est-ce qui fait flipper ? Celui dont le métier est de nous faire flipper. Maxime Chattam, vous restez avec nous. Le questionnaire de Frousse arrive sur Europe 1. Juste après, Thriller version jazz, voici Scott Bradley's Big Band sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez L'équipe est sauvage, 2 heures à mi-chemin de l'info et du rire, de l'horreur et de la comédie, comme si l'exorciste rencontrait la grande vadrouille. L'équipe est sauvage, spécial Halloween aujourd'hui avec le maître de l'horreur, Maxime Chattam, maître de l'horreur et du thriller, hein. Insecte avec le jeu de mots, donc un UN entre parenthèses E, secte. C'est évidemment assez horrifique, mais c'est avant tout un page-turner. Est-ce qu'il y a, alors évidemment il y a le talent, vous me direz, ça peut jouer, mais est-ce qu'il y a quand même des recettes, des petits trucs, quand on a écrit tant de romans comme vous, des petites ficelles qui font qu'on sait qu'on va réussir à captiver le lecteur ?
Non, il n'y a pas des recettes, mais moi je suis cinéphile et je compare l'écriture des thrillers au montage des films. Vous racontez une histoire avec un prisme, et puis à un moment vous dites tiens, le bon moment pour couper c'est là, et je reprends mon histoire sous un autre angle un peu plus tard, et le suspense il se crée tout seul, c'est naturel en fait.
Et justement, cette question vient naturellement après ça, comment ça se fait que vous n'ayez pas passé le cap, franchi le pas vers la réalisation de films? Vous pourriez très bien adapter un de vos romans vous-même, parce que on parle de projet, mais pourquoi pas passer derrière la caméra vous-même?
En fait ça prend un temps fou, faire un film c'est 2-3 ans de sa vie. Et je ne vous cacherai pas que je suis presque malade dans ma façon et dans mon besoin d'écrire en permanence.
En combien de temps vous écrivez un roman ?
L'écriture comme ça d'un bouquin, c'est entre 3 et 6 mois pour un roman.
Oui, mais à combien d'heures par jour aussi ?
Ah bah par contre, oui, c'est 8 à 10 heures par jour. Et
oui,
sur la
ça.
Fin, je suis un peu obsessionnel. C'est-à-dire que je rentre quasiment en transe et je me lève à 4 heures du matin, 4-5 heures. J'écris toute la journée et je me couche à minuit. Donc en fait, je fais des brèves pauses pour dire à ma famille que je suis encore vivant. et pendant un mois et demi à peu près, sur la fin du livre, j'écris sur ce rythme-là. Une espèce de... Mais c'est obsessionnel, c'est-à-dire que le livre est tellement en moi, il est au bout de mes doigts, j'ai besoin qu'il sorte. Et j'ai tellement peur que chaque heure qui serait passée à faire autre chose que de l'écrire, c'est une heure que je vais perdre sur ce livre, je vais perdre des fils, etc. Donc il y a quelque chose d'assez obsessionnel. Sauf que les livres, en fait, ils maturent pendant des années dans ma tête. Là, aujourd'hui, je peux vous parler des 17 prochains de mes bouquins. Et c'est pas une image, c'est réel. Ouais. Il y a 17 carnets de notes prêts, etc. Ça mûrit, etc. Ça avance.
Et il y a aussi une grosse documentation. Vous faites un travail journalistique en amont.
Oui, c'est une partie du plaisir. C'est d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens. C'est d'abord lire des tas de sujets.
Là, sur les insectes, vous avez rencontré qui ?
Finalement, pas tant de monde que ça, parce qu'il y avait déjà énormément de renseignements possibles disponibles dans des bouquins. Je suis allé aux États-Unis, j'ai passé un peu de temps comme le livre se passe aux États-Unis, notamment à Los Angeles. Et j'ai rencontré quelques spécialistes au musée d'histoire naturelle. Et puis surtout, j'ai passé du temps avec les flics de Los Angeles, parce que pour le coup, c'est des flics que je connaissais assez peu. Et j'avais besoin de comprendre leur méthodologie, etc. Donc, passer du temps la nuit dans certains quartiers un petit peu étranges, de s'amuser, quoi.
Oh oui, c'est amusant. En 2013, vous disiez que statistiquement, il y a en moyenne 3 tueurs en série qui frappent en permanence.
En France ?
En France ?
Ouais. Ouais, on ne se rend pas compte parce que souvent on parle des grands tueurs en série, etc., qui font la une des journaux. Je ne sais pas pourquoi les médias s'intéressent à certains et pas à d'autres, mais il y a régulièrement, si vous regardez de plus près, les procès d'individus qui ont été arrêtés à leur deuxième ou parfois même troisième crime. Donc ils ont tout à fait le profil du tueur en série. On en parle assez peu. Mais en permanence, ouais, il y a à peu près entre 2 et 3 tueurs en série qui sévissent en France sans qu'on sache vraiment... tout ça, mais des gens qui disparaissent. Heureusement, les flics bossent bien, donc ils sont actifs.
J'espère qu'il n'a pas repéré de tueur en série dans ce studio, mais vu la gueule de Charrier, parfois je m'interroge. Son nouveau roman, Insecte, est disponible chez Albin Michel. Maxime Chattam est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est une experte de l'horreur, puisqu'elle a longtemps travaillé sur la Rai Uno. Amanda est exceptionnellement en ligne avec nous aujourd'hui depuis son manoir tropézien pour fêter Halloween. Vous êtes chaude, Amanda ?
Je suis bouillante.
Vous n'oubliez pas votre petit questionnaire de frousse. Il y a quand même un sens à votre présence dans l'émission aujourd'hui. Ah, Mathieu Charrier, quand même, cette Amanda. Quelle femme exceptionnelle.
Alors, ça n'a pas été toujours le cas.
Ah non, pas vous. Ah non, pas ça. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage spéciale Halloween continue avec l'un des auteurs français les plus populaires et parfois les plus gores. Maxime Chatham publie Insectes chez Albin Michel, un roman qui ferait presque aussi froid dans le dos que la fois où Mathieu Charrier avait chanté Les Musclés.
C'est la merguez, merguez partie, tout qu'il y a de la braise.
Ce qui n'est pas peu dire, et je parle sous le contrôle d'un pro de l'horreur. Et justement, Maxime Chatham, pour fêter Halloween dignement, on a tenu à vous faire une petite surprise. Nous sommes en ligne depuis son manoir de Saint-Tropez avec une star qu'on adore ici. Amanda, vous êtes toujours là ?
Mais bien sûr que je vous entends. Vous pensez que je suis à Paris ou quoi ? Vous me confondez avec Catherine Deneuve ?
Mais, pas du tout, ce ne serait pas permis. Alors, Amanda, vu que vous adorez l'horreur, je crois d'ailleurs savoir que vous avez décoré votre manoir pour ce soir. Vous avez vidé les citrouilles, Amanda ?
Mon chéri, la vendange, elle est quotidienne au manoir. J'attends pas Halloween. Et vous êtes plutôt bien placé pour le savoir.
Bon, taisez-vous. Alors, comme vous adorez l'horreur, disais-je, vous proposez à Maxime Chatham non pas un questionnaire de Proust, mais un questionnaire de frousse. Maxime Chatham, êtes-vous prêt ?
Je suis prêt.
Alors Amanda, c'est à vous.
Eh bien, bonjour Maxime Chatham. Je suis ravi de m'adresser à vous. J'en ai la chair de poule de luxe. Alors, questionnaire de frousse, c'est parti. Maxime, quel est votre auteur qui fait peur préféré ?
Oh, bah c'est Stephen King, j'ai grandi avec lui, donc enfin avec ses livres, entendons-nous.
Très bien, ça me va. Est-ce que vous avez peur de grossir ?
Oh bah, c'est le jeu des romanciers qui s'immergent pendant 12 heures par jour dans leur bureau.
M'en parlez pas, moi j'ai pris 4 kilos, on dirait Zaya. Avec vos amis, Maxime Chatham, vous préférez faire peur ou faire rire ?
Mais figurez-vous que je crois être plutôt quelqu'un de souriant et je suis pas quelqu'un qui fait peur au quotidien. Je mets tout ce que j'ai de pire dans mes livres.
En champagne. De quoi avez-vous
Amanda, le oui. Même vos sont sales. C'est vraiment bien imité.
Imité. De quoi, Maxime Chatham, avez-vous le plus peur ? Que vos enfants n'aiment pas vous lire ou que Faustine Bollard vous largue pour Guillaume Musso ?
Alors j'embrasse Guillaume. J'avoue franchement, j'aime beaucoup Guillaume. Donc on va dire que mes enfants ne lisent pas mes livres, même si je leur souhaite de trouver plein de bonheur dans d'autres livres que ceux de papa.
Vous avez plus peur des animaux ou peur des hommes ?
Peur des hommes, les animaux on les connaît, ils font pas de mal, y a pas de raison.
Vous avez peur de perdre vos cheveux ?
Je vais m'inspecter dans la glace, je vous dis dans deux minutes.
On sent Amanda que ce sont des questions très personnelles.
Ah ouais, je mets beaucoup de moi-même.
Oui, j'entends.
C'est très fouillé ce questionnaire.
Le film qui vous a fait le plus peur de toute votre vie ?
Oh là. La grande vadrouille, quand j'étais petit.
Oui.
Pas assez de morts.
Maxime Chatham, vous préférez revenir de la mort en vampire, en zombie ou en Ariel Dombal ?
Ah, vous êtes cruel là. Allez, j'aime bien les vampires.
Maxime Chatham, est-ce que vous aviez peur d'aimer avant ?
Voilà.
Ça monte d'un tout à coup, on est à un autre niveau.
J'aimais mes livres, un peu trop mes livres et un peu trop écrire et pas assez la vie. Mais ma femme est arrivée à ce moment-là.
Oh. Ça c'est beau. Même vous en restez sans voix.
Ah oui, sans voix. Qui avez-vous le plus peur de décevoir ?
Ma famille, forcément.
Vous avez plus peur de la magie noire ou de la page blanche ?
Pour le coup, ça va être difficile parce que la page blanche, je ne connais pas. Et la magie noire, j'adore.
Est-ce que Maxime...
La page noire.
Oui, très bien. Est-ce que Maxime Chatham, un de vos fans, vous a déjà fait un peu peur ?
Hélas, oui.
Racontez-nous.
Vous savez, avec ce que j'écris parfois, je me retrouve avec des gens un peu étranges.
Mais ça se trouve, il y a des serial killers qui vous écrivent ?
Possible, mais j'ai reçu des photos parfois assez flippantes. Et puis, je me suis fait suivre sur le parking après des dédicaces par une fan un peu excessive, on va dire ça comme ça, faisait des autodafés de mes livres quand je refusais de lui parler.
Ah oui, quand même, ça va loin. Vous n'avez jamais dû porter plainte ou
Non, moi, j'ai pas eu ce problème. Ma femme, plus, mais moi, ça va. Je m'en suis plutôt bien sorti pour l'instant.
Eh bien, formidable. J'arrête là. J'avais j'avais peur d'être trop longue. Oh, mon esprit de champagne.
Merci et bravo. Merci, on embrasse au passage la vraie Amanda qui est la bienvenue quand elle le souhaite dans notre émission. Quant à la personne qui a si admirablement imité Amanda Lear, occupant d'assez hautes fonctions dans l'organigramme d'Europe 1, elle préfère rester anonyme.
Discrétion.
Discrétion toujours. Son dernier roman va vous obséder. Insecte chez Albin Michel. Maxime Chattam est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est un moment souvent redouté des invités, le quiz qui les oppose à Eva Rock. Mais vous n'avez pas le choix, Maxime Chattam. Soit vous vous risquez au quiz, soit je rediffuse la reprise de Thriller par Eva Rock l'année dernière. Alors qu'est-ce qui est le plus effrayant? Ouais, on va plutôt faire le quiz, hein, plutôt.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, votre cocktail infotainment de l'après-midi, une édition spéciale Halloween en ce 31 octobre. Une émission plus que jamais hybride, à équidistance du rire et de l'horreur, à mi-chemin de Massacre à la tronçonneuse et des Bronzés font du ski, même si d'aucuns argueront que certaines scènes des Bronzés font du ski relèvent aussi du film d'horreur.
C'est une recette du pays, ça s'appelle la fourre.
Sans parler de la bande-son.
Juste à cause de toi, je te supplie, tu sais que c'est pour toi.
Surtout dans cette version française, on est vraiment au comble de l'horreur. Pour nous accompagner cet après-midi, l'angoisse ne lui fait pas peur, elle est même le sel qui fait le succès de ses romans. Maxime Chattam a publié Insecte, jeu de mots volontaire, car le livre, c'est votre hommage. Qu'est-ce qui se passse là? Je crois que Eva s'est étouffée, c'est ça?
Je me suis étouffée, pardon.
J'ai étouffée parce que... Comment ça?
Elle a eu un petit relent.
Vous avez un renvoi? Non, pas un renvoi. Je me suis...
Expliquez-nous.
Il y a un truc qui est resté coincé.
Un insecte. Le jour où on fait la chronique sur les tournages qui partent en couille avec vous auriez pu décéder en direct.
Exactement.
Ah, remarquez, ça aurait créé un buzz autour de l'émission. Finalement.
Je vous remercie pour votre compassion.
Je suis très heureux que vous soyez toujours vivante. Maxime Chattam, vous publiez Insecte chez Albin Michel, donc avec un jeu de mots. UN entre parenthèses E, secte, car c'est un peu votre hommage au monde de l'infiniment petit, en moins poétique cela dit que Microcosmos, hein, c'est plus gore.
Oui, mais ça s'adresse pas au même public, on va dire. Essayez de faire dire ça à vos enfants le soir pour les endormir, vous allez voir.
Mon Dieu, vous pouvez nous décrire comment vous bossez? Il paraît que vous avez un bureau un petit peu particulier. J'ai lu que vous aviez un loup-garou, une momie, un crâne sur ce bureau. C'est vrai tout ça ou c'est une légende?
Je sens que vous allez vanner Eva Rock encore.
Pas du tout. Allez-y, Maxime.
Mais ne me poussez pas.
En fait, je me suis construit une espèce de cabinet de curiosité. L'idée, c'était d'être à la fois entre la réalité et la fiction, y compris dans mon espace physique. Donc, il y a des squelettes partout, des crânes, des tas d'objets étranges. Et l'idée est de savoir ce qui est vrai et faux. Donc, il y a des objets très anciens, des collections que j'ai ramassées dans le monde entier. Et puis, il y a une momie égyptienne, il y a un loup-garou de 2 mètres de haut, il y a une sorcière qui fait peur d'ailleurs aux gens qui viennent chez moi.
Mais il est fermé à clé, ce bureau, ou vos enfants, si jamais ils rentrent là-dedans?
Non, alors mes enfants ont grandi, donc ils sont très heureux dans le bureau. Papa, c'est la récréation.
Ils viennent s'amuser là-dedans.
Le truc, c'est qu'un jour, j'ai pas été assez rapide et ils sont venus avec un de leurs copains.
Et là?
Ah, bah, les parents ont porté plainte.
Eva.
Est-il vrai que, à propos de votre loup-garou que vous avez dans la maison, beaucoup de vos amis viennent et vous demandent si c'est un vrai?
Non, un jour, une journaliste
considérera Eva R.
Voit la momie, voit l'été, d'un coup, se tourne vers le loup-garou, il me regarde, mais très sérieux, il me fait oh, mais c'est un vrai.
Alors, au début du livre, vous donnez des suggestions de musique à écouter. Vous-même, est-ce que vous avez une playlist spéciale quand vous écrivez?
Ouais, j'écris en musique. En fait, pendant des années, j'ai lu des livres en écoutant de la musique et je me suis rendu compte qu'écrire pouvait être aussi très agréable dans ces conditions. Ça renforce un peu le cocon de concentration. Mmh. Le truc, c'est de trouver les bonnes musiques. Donc, j'ai des centaines et des centaines de CD. Je sélectionne, je fais des piles avant de commencer à écrire. Et puis, au fur et à mesure des semaines d'écriture, j'écrème. Et à la fin, d'ailleurs, en début de roman, je conseille les 3-4 CD qui m'ont le plus marqué pendant l'écriture.
Alors, parmi les musiques que vous conseillez, une des plus belles musiques de série de tous les temps, celle de The Leftovers, c'est signé Max Richter. Alors ça, vous écoutez ça, effectivement. À mon avis, elle a fait beaucoup pour le succès de la série, cette musique. Quand on voit votre goût pour associer des musiques avec des ambiances, moi je dis quand même, il faut quand même réaliser, Maxime Chattam. Il faut y aller à un moment.
Ça viendra un jour.
Mais oui. Alors Maxime Chattam, vous êtes habitué à aller loin dans l'horreur, mais ce que vous allez vivre maintenant dépasse tout ce que vous avez connu, puisque vous allez être confronté au cerveau d'Eva Rock, The Brain, comme on l'appelait dans les couloirs de l'IEP d'Aix-en-Provence. Jouons à... Histoire trop mignonne ou trop flippante? Je vais vous raconter des débuts d'histoire authentiques. À vous à chaque fois de me dire comment vous le sentez. Est-ce que la suite va être trop choupi mignon avec des paillettes ou totalement gore? Maxime Chattam et Eva Rock, vous me donnez votre choix. Chacun joue pour sa pomme. Première histoire. Janvier 2019, nous sommes à Londres. Claire et Andy Bork ont une petite cinquantaine et pourtant ils font une partie de Mario Kart, ce jeu où on s'affronte à travers une course de cartes endiablées. Quelqu'un sonne à la porte, c'est leur fils unique. À votre avis, la suite est-elle trop horrible ou trop choupinou ? Eva Rock, Maxime Chatham, d'après vous.
Horrible.
Horrible, Eva ?
Moi aussi, j'aurais dit horrible.
Horrible ?
Ouais.
On écoute la réponse.
Trop choupinou ! Le fils a pris une photo de ses parents car cela fait 18 ans qu'ils ont ce rituel de jouer à Mario Kart. Le perdant prépare le café. C'est trop mignon.
Et non, c'était trop choupinou, trop mignon, vous avez raté.
Moi, si je l'avais écrite, à la fin, ça le gamin serait rentré, les parents étaient morts depuis longtemps, c'était le squelette qui jouait à Nintendo.
Ça aurait peut-être été mieux d'ailleurs. Deuxième histoire, attention. Nous sommes à Braunau, en 1567, à la frontière germano-autrichienne. Déjà, c'est un bon lieu pour être flippant. Cette ville sera tristement célèbre au XXe siècle comme étant le lieu de naissance d'Adolf Hitler. Mais pour le moment, nous sommes avec Hans Steininger. C'est le maire de la ville, il marche dans la rue, c'est administré le salut d'un geste de la main, car il inspire le respect. Que va-t-il se passer par la suite ? L'horreur ou une belle histoire romantique ? Eva, Maxime ?
Allez, une belle histoire.
Ah, moi j'aurais dit horreur, mais je suis Maxime. Une belle histoire.
Une belle histoire ?
Allez.
Vous êtes nuls !
Hans a une barbe d'1m40, il marche dessus, son cou se brise instantanément.
Ah mais non !
Il meurt sur le coup, c'est pas de bol.
Ouais, une barbe d'1m40, il cherche le gars quand même. Ouais.
Mais ça, mourir en marchant sur sa barbe, je crois que je vais passer chez le barbier, parce que ça vient vite ces histoires-là. Troisième histoire. Nous sommes dans le sud de l'Angleterre. Rose Anne est une bibliothécaire à la retraite, mais toujours disponible pour aider ses anciens collègues. Ce matin-là, elle remarque un visiteur étonnant. Une chauve-souris est entrée dans l'enceinte. Que va-t-il se passer ? Quelque chose d'effrayant ou d'adorablement mignon ? Eva Rock,
oh non,
Maxime Chatham.
Choupinou.
Horrible. Ouais.
Ah. Horrible.
Choupinou, moi.
Horrible et choupinou sont les deux réponses. Voici la vraie réponse.
Tous les collègues de Rosanne vont se mobiliser, lui donner à manger pendant l'hiver, car la chauve-souris était très amaigrie. Et non seulement elle va avoir un nom, Merlin, mais aussi une vraie carte de bibliothèque. C'est trop mignon.
C'est trop mignon.
Mais comment ça se serait passé si Maxime Chatham avait écrit l'histoire ?
Bah, elle aurait terminé écrasée contre la fenêtre.
Tout simplement, et avec une bonne pelle, hop, adieu la chauve-souris. Quatrième et dernière histoire qui va vous départager. Nous sommes en Allemagne, en 1999, ce soir-là, dans un cabaret prestigieux de la capitale. Un avaleur de sabres fait son numéro. Au troisième rang, une femme blonde le regarde très attentivement. Le public ne fait pas un bruit, on approche de la fin du spectacle. L'artiste prend un parapluie, le dirige vers sa bouche. Que va-t-il se passer ? Quelque chose d'ignoble ou de très très mignon ? Eva Rock, Maxime Chatham ?
Trop choupinou ?
Horrible.
Horrible selon Maxime Chatham, on écoute la réponse.
Le magicien avale le parapluie, mais pas de peau, il appuie sur le bouton pour l'ouvrir. Il meurt sur le coup. Le résultat final n'est pas beau à voir.
C'est les Darwin Awards dans le truc.
Et oui, c'était dégueulasse cette dernière histoire. Et qui remporte le quiz ? Égalité parfaite. Égalité parfaite, une égalité toujours parfaite. Je fais toujours l'erreur.
Mais non, parce que la dernière question valait double.
La dernière question valait quadruple, me signale-t-on en régie. C'est Maxime Chatham qui remporte le quiz. Bravo, il est l'artisan de vos pires cauchemars. Mais vous vous rouez quand même sur chacun de ses nouveaux romans. Le dernier s'intitule Insecte. Maxime Chatham est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, pour nous changer les idées, si on parlait de zombies.
Ah là là.
Non, cessez d'avoir peur tout le temps, Charrier, non. Des zombies au sens figuré, car ils marchent à l'allure des zombies. Ce sont des joueurs de foot qui ont inventé une alternative moins fatigante au foot, le walking football, ou foot en marchant. Alors évidemment, ça concerne essentiellement les seniors. Pourquoi, Mathieu ?
Parce qu'ils pissent partout ?
Mais non, pas du tout, parce que physiquement, c'est moins traumatisant. Bref, on vous explique juste après Taylor Swift, You Need to Calm Down, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage, sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez L'équipée sauvage spéciale Halloween avec notre invité Maxime Chatham, le roi français du suspense qui publie une secte, on ne sait plus, un thriller qui, comme on disait sous Daladier, fout sacrément les miquettes. C'est pourquoi, pour nous reposer un peu de toutes ces émotions, je vous propose de décompresser en région avec le plus à l'ouest de nos correspondants. Bonjour François Coulon.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On va parler à présent d'un sport qui pourrait être un sport de zombie. Ça s'appelle le walking foot, ça se pratique notamment dans l'ouest de la France. Qu'est-ce que c'est que ce walking foot, François ? Nous sommes suspendus à vos lèvres, littéralement.
Et c'est une bonne idée d'être suspendu. Eh bien, ça s'appelle, c'est le football en marchant. C'est une invention britannique, figurez-vous, qui remonte à 2011. Le walking foot est né précisément à Chesterfield. Et il s'adresse, suivez mon regard, à ceux qui sont un peu carbonisés au bout de 10 minutes quand ils viennent de chausser les crampons.
Tout de suite.
Ils ont l'impression de traîner une caravane derrière eux. Ça vous dit des choses,
oui,
Mathieu,
tout
manifestement.
À fait, ouais.
Et ben voilà, c'est pour vous et pour ceux-là qui ont en général plus de 50 ans. que les Anglais ont créé le foot en marchant et ça marche très fort outre-Manche. On en est à 1200 clubs. Alors ici en France, bien sûr, le phénomène est beaucoup, beaucoup plus modeste. C'est dans une petite commune bretonne du Morbihan, Silfiac, 500 habitants près de Pontivy, qu'un couple britannique a importé la discipline il y a 2 ans. Alors la règle numéro 1, bien sûr, c'est l'interdiction de courir, comme l'explique Claude Coton, quinquagénaire, fan de foot au ralenti.
Le principe, c'est qu'un pied doit toujours rester au sol. On peut marcher vite, mais dès que les pieds décollent du sol, ça veut dire qu'on court. Là, l'arbitre signale une faute, le ballon est donné aux adversaires. Au début, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a tellement pris l'habitude de jouer au foot en courant qu'on a tendance à reprendre les vieilles habitudes. On décompose un peu le geste technique dans une lenteur. Je ferai la comparaison entre le kung-fu et puis le tai-chi, par exemple, où là, on apprend une certaine lenteur, mais la technique est toujours là. C'est pas compliqué. Déjà, il faut marcher, puis après, il faut savoir taper dans un ballon, quoi.
Alors, on a bien compris, François, interdiction de marcher, mais aussi interdiction de plein d'autres choses. Les règles de votre foot pour seniors sont sensiblement différentes de notre foot à nous, nous qui sommes fringants, vigoureux et ravageurs sur les terrains.
Faites gaffe quand même à vos chevilles, Mathieu, quand ça enfle trop, ça peut être un peu dangereux sur la pelouse.
Il m'a taclé.
Alors, cela dit, oui, il y a un paquet d'autres singularités. D'abord, le terrain, dont la surface c'est proche de ce qu'on utilise en handball.
C'est la bonne surface. Après, c'est trop grand. C'est trop fatigant. Bah voilà. Le terrain de handball, c'est parfait pour jouer au foot.
Ouais, c'est pas un train ping-pong. Je trouve aussi. Les équipes comptent 5 à 6 joueurs. On n'a pas le droit à plus de 3 contacts consécutifs avec le ballon. Ça exclut les dribbles. Les tacles sont eux aussi interdits. Les coups francs sont... Ah oui, vous aimez ça, vous, Eva?
Non, mais...
Quand ça frite, quand ça fight.
Une partie de foot sans tacle,
tant
franchement...
Qu'on prend tous la douche ensemble dans les vestiaires après, Eva est contente. Hein.
Alors, ben, on va y venir. Les coups francs sont indirects. Il n'y a pas de hors jeu. Interdiction de pénétrer dans la surface de réparation. La balle ne doit pas dépasser la hauteur de la tête. Bref, je vous vois venir. Vous allez me dire qu'il vaut mieux se mettre au baby-foot. Et vous aurez tort. Car ça reste un vrai sport, un sport santé. Et apparemment, à Silfiac, la vingtaine de joueurs se régalent tous les jeudis soirs à 18h30. Et d'ailleurs, je vous transmets une invitation collective pour terminer. Toute la bande de l'équipée sauvage est la bienvenue quand vous voulez sur place pour une rencontre amicale, garçons et filles confondus, car ces équipes de foot marchand peuvent être mixtes. Vous avez gardé le meilleur pour la fin.
Parfait, François Coulon. Mais écoutez, non, mais on rigole, mais franchement, c'est une très belle initiative.
Bah oui.
Mais moi, j'ai très envie de jouer au foot en marchant, au walking football.
You're welcome.
Mon
talent You're welcome.
Va enfin éclater à la face du monde dans le walking foot. Merci beaucoup, François Coulon.
Europe 1.
L'équipe est sauvage spéciale Halloween continue. À la base, j'avais pensé que pour faire de cette spéciale frisson un moment unique et vraiment effrayant, il suffirait de demander à Eva Rock de nous livrer une de ses anecdotes les plus angoissantes.
J'ai failli mourir.
Mais non.
Non, non.
Bon, finalement, je me suis dit que si on tombait sur des auditeurs exigeants, ça serait limite. J'ai donc préféré appeler Maxime Chatham, le maître de l'horreur. 7 millions de romans vendus en France. Le dernier s'intitule Insectes. On continue d'en parler, mais la compétition continue. De nouveaux concurrents s'apprêtent à nous rejoindre. On parlera notamment, je cite, d'un être vivant sans cerveau qui ne bouge pas beaucoup, mais qui est tellement étrange et informe qu'il en est effrayant.
Mathieu Charrier ?
Non, le blob. Il bouge encore moins. Vous allez voir, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, Maxime Chatham nous accompagne cet après-midi pour la sortie de son dernier roman Insectes chez Albin Michel. L'équipe est sauvage spéciale Halloween continue. Une émission dédiée à l'horreur, même si c'est vrai, certains me le font remarquer sur Twitter, nous avions peut-être déjà commencé hier, quoique involontairement, quand Anissa Mbida, notre expert innovation et lapsus gênant, tentant justement de se justifier dans lapsus commis la veille, n'a réussi qu'à s'enfoncer encore plus. Toujours est-il qu'au moment où nous avons évoqué la fameuse recette de la fougne, ce plat montagnard à base de restes de fromage servi à l'étalé, vous vous souvenez la scène du film, hélas, le nom précis du plat ne lui revenant pas, il s'est exclamé qu'il adorait...
La fougne.
Qui est un autre plat, Anissa, je vous expliquerai.
Très bon également, très bon également. Bon, ça dépend laquelle, il faut qu'elle soit bien.
Bonne appétit à tous les amoureux et joyeux Halloween. Maxime Chatham, vous êtes notre invité aujourd'hui. Votre dernier livre, Insectes, est disponible chez Albin Michel. Dans ce livre, moi, ce qui me fascine chez vous, c'est le degré d'horreur dans lequel vous êtes capable d'aller dans les descriptions. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous excite personnellement ou vous le mettez comme un ingrédient? Ça peut être un vice personnel. Ou est-ce que c'est un ingrédient parce que vous savez que ça, c'est quand même très vendeur?
C'est... Non, je ne pense pas que ce soit très vendeur, au contraire.
Ah, vous pensez que ça peut au contraire vous fermer les portes?
Je suis convaincu, si vous voulez faire des ventes stratosphériques, il faut faire plutôt grand public, c'est évident. Mais c'est ma perception de ce que doit être l'écriture de ce type de livre, et je n'ai pas envie de faire autrement. Et puis surtout, mes premiers romans, c'était des romans policiers avec côté très procédural, on était sur les scènes de crime. J'ai assisté à pas mal d'autopsies, j'ai été sur des scènes de crime avec les flics pour ça. Et je me suis pris dans la tête tout ce qu'était la violence, avec une telle puissance qu'ensuite j'ai jamais été capable de décrire ça dans mes livres sans essayer d'être au plus juste, au plus vrai, au plus proche de ce que c'est que la violence pour de vrai, et pas comme dans les séries policières où le mec met ses lunettes de soleil sur le crâne en disant hey, on va résoudre le meurtre, c'est trop cool. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est une enquête policière. Et donc j'avais envie d'être à la fois dans le divertissement avec des livres qui vont à 200 à l'heure, surprenants, etc. Et en même temps quelque chose qui soit très... que chaque scène de crime ou chaque moment un peu violent soit comme un uppercut pour le lecteur.
Maxime Chatham, restez avec nous. L'équipe est sauvage revient en deuxième heure avec deux nouveaux candidats au titre de chroniqueur du jour. On parlera d'un organisme unique et intrigant, le Blob, et d'un hobby qui séduit de plus en plus les Français, la course d'orientation.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, nous fêtons Halloween avec Maxime Chatham dont le nouveau roman Insectes est disponible. L'équipée sauvage spéciale horreur continue. Même si j'en conviens, vous êtes nombreux à nous le faire remarquer. Avec nous, c'est un peu Halloween tous les jours. Quand par exemple, la gagnante s'exclame
« Ouais, j'ai gagné sur les spermatozoïdes !»
Alors, depuis, je vous le rassure, Anne Le Gall a retrouvé sa cellule capitonnée à Sainte-Anne, mais quand même, sur le moment, ce genre de phrase, ça fout les jetons. Mais la compétition doit continuer, et elle va continuer avec deux nouveaux postulants au titre de chroniqueur du jour. Maxime Chatham, à ma gauche, ne vous fiez pas à son classement avant-dernière. Elle est avant-dernière parce qu'elle n'est venue que deux fois. Mais avec 5 points à son compteur, elle a le meilleur ratio présence-point de toute la rédaction d'Europe 1. Voici l'ordre d'autriche. Laure, pour fêter Halloween, vous nous avez promis quelque chose d'encore plus dégueu que la pratique dont nous a parlé hier Eva.
Le massage intrabuccal.
Je crois en vous, mais franchement, Laure, qu'est-ce qui peut être plus dégueu qu'un massage intrabuccal?
Un être vivant un peu gluant, un peu étonnant, très surprenant, je vous dis ça tout à l'heure.
Donald Trump.
Oui, effectivement, ça va être vraiment angoissant. À ses côtés, Maxime Chatham, méfiez-vous. Dans les romans noirs, il est toujours ce personnage secondaire qui ne paye pas de mine, qu'on ne voit pas venir, ce docteur sympathique en qui on a une totale confiance quand il vous dit
« N'ayez pas peur, je vais vous piquer, vous n'aurez pas mal.
» Oh putain de ta mère, salope !
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Vous êtes notre expert sport et loisirs et cet après-midi, vous nous expliquez que pour Halloween...
Sport et loisirs.
J'ai inventé ce titre pour vous d'ailleurs. Vous pourrez en parler à la direction, c'est votre nouveau titre. Expert sport et loisirs. Vous nous expliquez que pour Halloween, on peut très bien faire du sport tout en se faisant
justement,
peur.
Justement, oui, sport et loisirs, c'est vraiment le jour où me qualifier
c'est
comme
le
ça,
jour
c'est
ou jamais,
ça.
C'est pour ça que j'ai créé ce titre.
La mort aux trousses. Au sens premier du terme. Oh. Course d'orientation, qui est une pratique de plus en plus plébiscitée
par
les Français.
Et si on perd, hop, on meurt.
Poursuivi par des monstres.
Des vrais monstres.
Faut courir.
Des vrais loups-garous.
Faut courir. Je vous dis pas quel monstre, suspense.
La mort aux frousses.
La mort aux frousses, et c'est là qu'on voit qu'on a un vrai auteur parmi nous aujourd'hui, Maxime Chatham. Quel sujet notre invité préférera-t-il? Réponse peu avant 18h. En attendant, on continue d'apprendre à mieux connaître Maxime Chatham. Au fait, qui est pour vous Maxime Chatham? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours trop flatteur pour l'invité. Voici notre micro trop trash. On n'a rien coupé.
Maxime Chatham.
Celui qui écrit des livres un peu hard, trash.
Non, ça fait pas peur. Même pas peur.
Mais parfois, ça fait peur quand même. Hein. On a l'impression d'être poursuivi.
Moi, j'aime bien.
Ah non. Alors, moi, je lis pas ça, moi. Oh là, quelle horreur.
Mais c'est hyper stylé, en fait.
Oh non, on voit ça à la télé. Hein. Pas besoin d'en lire. Hein.
Frisson, horreur.
Des crimes, des histoires un peu fantastiques. Ouais, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup.
Ceux qui aiment me disent qu'ils aiment bien. Et ceux qui n'aiment pas me disent rien. Parce qu'ils ne lisent pas, du coup.
Who the fuck is Maxime Chatham?
Il est dans son monde.
Genre dandy, brun. Sympa.
Pourquoi tant de haine quand on est beau comme ça?
Salut Maxime, bisous.
Pourquoi tant de haine quand on est beau comme ça? Les gens sont formidables. On sent, Maxime Chatham, que évidemment vous êtes passionné par l'horreur, tout ce qui est gore. Est-ce que parfois vous comprenez les gens qui vous disent c'est trop horrible pour moi? Vous pouvez comprendre cette réaction ou vous avez envie de leur dire vous êtes des chochottes?
De la même manière qu'on ne va pas tous avoir envie d'aller faire les montagnes russes les plus hautes du monde. Ouais. C'est compréhensible. La magie de l'écriture, c'est comme les films, il y en a pour tous les goûts. Donc non, c'est normal. Après, je me défends d'être un auteur gore. C'est-à-dire, le gore, ça a quelque chose de spectaculaire, de gratuit. On l'évoquait tout à l'heure. Moi, c'est vrai qu'il y a des scènes de crime que je vais décrire précisément. Et typiquement, j'aime pas les auteurs de polar qui vont vous dire sur sur une scène d'autopsie, le corps en décomposition sentait mauvais. Non, moi je vais vous décrire ce que c'est que l'odeur d'un corps en décomposition. Donc je vais
c'est
avoir
une prison, c'est une forme de réalisme en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Je vais avoir l'image d'un auteur gore, alors qu'en fait, moi je me défends d'être gore. Je pense qu'en effet, je suis plutôt un auteur réaliste. Mais réaliste dans le thriller d'enquête criminelle, forcément, ça peut parfois être un peu étrange.
Eva Rock.
Ça veut dire que vous seriez incapable d'écrire une histoire d'amour ou une histoire pour vos enfants
Parce qu'il aimerait beaucoup vous écriviez une histoire d'amour, si possible avec elle, dans le rôle principal.
Ah, j'ai cru qu'il y avait une histoire d'amour avec des enfants.
Ça serait encore autre chose.
Non, au contraire, j'ai écrit d'ailleurs une époque une série qui s'appelle Autre Monde, qui est plutôt une histoire fantastique, grand public, pour des jeunes lecteurs en partie aussi. Donc non, c'est vraiment une question de d'où est-ce que je me situe au moment où j'écris un livre et de quoi j'ai envie de parler. L'histoire d'amour, c'est ce que j'aurais dû écrire. Mon deuxième roman était une histoire d'amour. Et puis finalement, j'ai été édité pour la première fois à ce moment-là et j'ai sauté sur l'occasion de faire la suite du premier thriller. Mais non, c'est un sujet que j'ai en tête. Après, je ne vous cacherai pas que à l'époque, j'écrivais des histoires horribles pour m'amuser et j'ai eu envie d'écrire une histoire d'amour parce que je ne la vivais pas. Maintenant que je la vis, j'en ai un petit peu moins envie.
C'est trop beau.
Son dernier roman s'intitule Insectes. Il est bien flippant comme il faut. Maxime Chattam est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Laure Dautry, Jérôme Lacroix sont à mes côtés. À suivre, si vous êtes nul à la course, que vous avez un sens de l'orientation tout pourri et que vous êtes trouillard, Jérôme a trouvé le hobby idéal pour vous, la course d'orientation d'Halloween. On vous explique les détails juste après Jérôme.
Un petit pipi.
Non, après la pub, Jérôme, la pub.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue 2 heures d'une compétition en temps normal déjà effrayante entre les meilleurs journalistes d'Europe 1, mais encore plus terrifiante aujourd'hui puisqu'on fête Halloween. Oui, bon, on fête Halloween avec les moyens d'Europe 1, hein. Mais en compagnie, et ça rattrape un peu, du roi de l'angoisse Maxime Chattam qui publie Insectes, thriller glaçant, on continue d'en parler. Mais voici Maxime, notre troisième concurrent en lice pour le titre de chroniqueur du jour. Un journaliste sportif qui, par sa finesse et sa poésie, permet vraiment de battre en brèche le cliché du journaliste sportif forcément potache et grivois.
Tu te rappelles de ce genre de foot qui s'appelait Jean Kulowski?
Oui, non, mais...
Avec son binôme gravier.
Oui, bon, Jérôme Lacroix, impayable GG. Vous nous faites découvrir aujourd'hui, enfin tu l'as vraiment dit, une pratique qui gagne du terrain chez les Français. Un hobby qui peut se pratiquer même et surtout le jour d'Halloween.
Je vous emmène pour une terrifiante balade. Vous êtes en forêt, il fait nuit noire, vous êtes seul, à deux ou à trois. Seul équipement, une carte, une boussole, un éclairage très rudimentaire et tout à coup...
Oh putain ! Putain, merde ! Putain, merde ! Putain, merde !
Des hordes de zombies qui vous tombent dessus et ils sont totalement flippants, vous en conviendrez.
Oh, on les voit sur Europe 1.fr, ils sont vraiment aussi bien faits que ça. Vous avez pris une photo
Non. Des maquillages dignes du cinéma, vous voyez des bouches sanguinolentes, la peau du visage en lambeaux, etc. Alors ils vous courent après et puis ils tentent de vous attraper.
Maxime, notez que Maxime Chattam sourit en regardant ces images, il trouve très sympathique ces zombies, ça ne lui fait absolument pas peur.
C'est super. Alors,
on dirait mes enfants, ils sont mignons comme tout.
Oui, parce que c'est plutôt pour les jeunes, parce que vous allez entendre, c'est physique. Leur but, c'est de récupérer des petites languettes que vous avez accrochées à votre pantalon, à votre ceinture. Vous les trouvez au pied des arbres ou dans les feuilles de cette forêt maudite. Deux vous sont fournies au départ par l'organisation. Elles symbolisent vos vies. Parce que oui, tout ça est un jeu, un nouveau jeu de survie, avec des guillemets, bien sûr c'est pour de faux, qui dynamite totalement la pratique des courses d'orientation. C'est la proposition, par exemple, de Zombie in the Dark. Hein, c'est une des sociétés actives à Paris, Reims, Caen, Nemours, Toulouse, Lyon, ou encore de la Zombie Run, hein, il y en a plusieurs. C'est un genre d'escape game, grandeur nature, parce que le but, c'est de parcourir une distance de plusieurs kilomètres, hein, souvent, en un temps limité, c'est autour d'une heure, dans un environnement hostile. Les zombies, ils sont tapis sous les feuilles, derrière les arbres, vous avancez à pas de loup et vous fuyez lorsqu'il vous court après. Et c'est du sport, hein. À noter que vous pouvez aussi choisir de participer en tant que zombie, si vous voulez, et pas en tant que survivant.
Ah, Maxime Chattam, il préférerait ça, hein. À mon avis, en tant que zombie, ça serait plus excitant pour vous.
Oui, enfin, j'ai l'impression que c'est un chabit horrifique, en fait.
C'est quoi ?
Un chabit horrifique.
Ah oui, parce qu'il faut être à la ceinture, c'est ça ?
J'ai cru que j'avais mal entendu, mais oui, nous avons bien parlé de chabit d'horreur sur Europe 1. Oui, tout à fait. Hein. Ah, vous adaptez très très bien. Et d'ailleurs, parce que ça paraît extrêmement physique et ça fout vraiment les jetons, il faut répondre à certaines conditions pour participer.
Oui, il faut être majeur la plupart du temps. On vous demandera aussi une décharge de responsabilité si vous vous blessez, par exemple.
Et parce que dans le noir, en plus.
Et absolument. Et il est vivement conseillé de consulter un médecin en amont de l'épreuve, au cas où, parce que le cardio est très sollicité. Alors ces jeux, c'est ni plus ni moins de la course d'orientation. Alors certes, dans un climat particulier,
cette discipline sportive qui continue de vraiment très bien se développer en France.
Vous nous rappelez le principe de la course d'orientation pour ceux qui ne l'auraient jamais pratiqué.
Sport de plein air, donc une distance à parcourir parfois très longue, une carte, une boussole. Il faut avaler les kilomètres, alors c'est à pied, à vélo, à ski, à tout est possible, le plus vite possible, sans se perdre, c'est donc impossible pour moi. Le chemin comporte des repères, hein, sont des balises, la tête et les jambes donc pour ce sport. Les inventeurs sont les pays scandinaves. Dès le 19e siècle, c'était alors une pratique d'entraînement des militaires norvégiens. Et c'est arrivé en France, une fédération existe, fédération française créée en 1970. Et aujourd'hui, c'est 220 clubs, 7000 licenciés, 20 000 pratiquants. Hors licencié, il y a une fédération internationale qui organise des mondiaux chaque année. Et en France, on a notre star, il s'appelle Thierry Georgiou. Il est 4 fois champion du monde de longue distance, l'épreuve reine. Alors, surtout lors de la période d'Halloween, ces courses d'orientation zombie, ça fait un carton. Comptez environ 20 euros par participant pour un super bon coup de flip sportif.
Je suis pas mort, putain. Je suis pas mort.
Je suis pétrifié. Maxime Chatham, lui, a l'air enchanté par ce chabit horrifique, comme il l'a surnommé cette compétition. Ça vous tente, Maxime ?
Écoutez, je trouve ça génial comme idée. Mais ça me fait penser aux États-Unis. Ils ont ouvert il y a quelques années, dans le Tennessee, une maison de l'horreur. Vous devez passer 10 heures. Si vous tenez 10 heures, alors d'abord, il faut savoir une chose, c'est que vous signez une décharge légale de 48 pages aux États-Unis. Ça vous donne une idée de l'intensité à laquelle vous allez être soumis. Et si vous tenez 10 heures dans cette maison horrifique, vous gagnez 20 000 dollars. Ça fait plusieurs années que c'est ouvert.
Personne n'a gagné.
Personne n'a jamais fini.
C'est-à-dire qu'ils sont partis avant parce qu'ils avaient trop peur.
Les gens ont demandé.
Il y a
un code pour dire qu'ils abandonnent. Et à un moment, avant 10 heures, ils abandonnent.
Mais ça vous tenterait pas, vous, d'essayer ça ?
C'est mes vacances.
Les 20 000 dollars, vous les gagnez facilement. Merci en tout cas, Jérôme Lacroix. Votre chronique aura-t-elle intéressé notre invité ? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
Avant l'arrivée de Netflix, MyCanal et OCS, il nous arrivait encore parfois de faire l'amour le soir.
Oui, mais c'est terminé.
Et oui, puisqu'entre le temps qu'on met à regarder la série et le temps qu'on met à s'engueuler avec son conjoint en amont pour choisir la série, ça laisse peu de temps pour des plotis-plotas sous la couette. On perd tous 17 minutes par soir à hésiter devant l'écran. Enfin, on perdait, car tout est plus simple depuis qu'Eva Rock décide pour nous. 17 minutes de gagner arrive juste après Genesis, Jesus Knows Me, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'un noble combat opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent sur le ring de l'info au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Pour cela, il devra vous offrir le sujet le plus palpitant et ne pas se laisser déstabiliser par les interventions plus ou moins pertinentes d'Eva Rock.
Toujours quelque chose à dire.
Eva A.
Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire.
Est-ce que c'était une vache homme ou femme ? On ne sait pas.
Les vaches hommes, ouais, qu'on appelle souvent le taureau.
Ouais.
Bonne intervention en tout cas.
Toujours quelque chose à dire.
Bravo Eva.
Reconnaissez
aujourd'hui,
que vous avez eu tort.
J'ai absolument pas tort, j'ai regardé, on appelle ça un bœuf ou un taureau, mais jamais une vache
c'est pas
homme.
Pareil.
Aujourd'hui, pour être d'accord avec Halloween, on reçoit le roi du suspense, Maxime Chatham. Son nouveau roman, Insecte, vient de sortir, on en parlait tout à l'heure. Vous dites, je m'inspire du cinéma et des séries. Or, le 11 septembre dernier, vous avez retweeté l'info selon laquelle, enfin, un de vos romans va être adapté en série. Êtes-vous en mesure, cet après-midi sur Europe 1, de reconfirmer le retweet de la reconfirmation de cette info ?
Je retweet l'information.
Vous retweetez l'information. De quel roman s'agit-il ?
Prédateur et la théorie Gaïa, en fait. On va faire un mix des deux. Et voilà. Donc on travaille sur celui-ci. Et pour tout vous dire, on travaille sur des adaptations d'autres de mes livres aussi en ce moment.
Mais quand vous dites « on », c'est-à-dire que vous participez au scénario ?
J'ai pas trop le temps de m'investir à ce point-là, mais en revanche, j'aime bien avoir un rôle de plutôt consultant, quoi, m'assurer qu'il y a une certaine cohésion.
Oui, parce que si ça a mis tant de temps, c'est pas que ça manquait de demande, c'est que Maxime Chatham, d'après ce que j'ai lu, vous étiez très exigeant, vous vouliez être associé justement à l'écriture de l'adaptation.
Je voulais être sûr que le projet partait dans des mains où la direction artistique me plaisait dès le début, parce que si c'est juste encaisser un chèque, pour qu'après on me dise bah, t'es gentil, t'as eu ton argent, tu te testes, ça m'intéressait pas. Or là, je suis entouré de gens qui vont dans une direction qui m'intéresse beaucoup.
On a parlé d'Alexandre Charlot et Franck Magnier pour le scénario, c'est ça ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu ? Pardon.
Rien, mais il faut lever la main pour parler dans mon émission, puisque c'est mon émission.
Mais parce que j'ai que deux doigts, je ne peux pas faire comme ça et comme ça.
Je plaisante, vous intervenez quand vous voulez, je vous aime. Je vous pose la question, Maxime Chatham, mais on connaît la réponse. Le soir, vous ne faites plus l'amour, il y a trop de séries à regarder.
Il y a trop d'amour à faire pour regarder la télé, vous voulez dire ?
Eh bien, figurez-vous que selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix ou toute autre plateforme de VOD à laquelle on est abonné, tant le choix est vaste. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock. Voici donc 17 minutes de gagner, Eva.
pas de programmation spéciale Halloween sur les chaînes de télé.
Ah bon,
j'ai bien cherché. Non, il n'y avait pas grand chose, en tout cas en rapport avec Halloween. En revanche, il y a un documentaire qui a attisé ma curiosité. M6 consacre sa soirée à Jamel Debbouze avec la diffusion de son spectacle en direct depuis Lille, suivi d'un documentaire sur l'humoriste et plus précisément sur l'année d'écriture et la préparation à ce dernier show. C'est un film qui est produit par sa femme Mélissa Theuriot. Alors j'étais un peu intriguée, je me suis dit, est-ce que ça va être totalement hagiographique ou pas ? Eh bien, c'est très malin, parce que vous allez comprendre comment écrire un one-man show est un processus créatif laborieux, difficile, et un exercice introspectif aussi pour Jamel Debbouze qui se pose des milliers de questions. Est-ce que je suis encore drôle ? Est-ce que tout ça va durer ? Est-ce que je peux parler d'homosexualité dans les quartiers ? Il est pétri de doutes, d'angoisse, et il est évidemment drôle aussi. À quelques jours de la première, par exemple, il prend conseil auprès d'un coach, sportif, mais aussi un coach qui lui donne quelques conseils sur son alimentation, et qui l'embarque dans un magasin bio pour apprendre à mieux manger.
Franchement, ça déprime, hein, la vie de la mère. C'est déprimant, quoi. Cette nouvelle vie est déprimante.
Ouais, mais elle est déprimante, mais elle va durer longtemps. C'est ce qui est bien.
Je sais pas si je préfère pas mourir, frère. Voilà, si, à réfléchir, je crois que je préfère vécreux que manger sans gluten.
Et il faut que vous voyez surtout la tête des potes de Jamel Debbouze qui sont avec lui dans le supermarché. On a l'impression qu'ils sont dans un musée. Ils regardent les pièces, ils se demandent ce que ces produits bio et ces galettes de riz. Alors, alimentation et préparation physique. Donc, des séances de sport qui lui font un bien fou à Jamel Debbouze. Il sort à peine de scène et il retrouve son coach dans sa loge.
Non, mais c'est sûr que tu me fais un bien fou, connard. Non, mais c'est ouf. C'est sûr que... C'est la première fois de ma vie d'artiste que je suis rentré sans Ventoline.
Ouais, je crois, ouais.
Ça m'est jamais arrivé, non, entre nous.
Ouais.
Il y a toujours une petite bouffée
toujours
à manger.
Une petite bouffée, ouais.
Ah, ça, c'est... Ça, je suis content.
Ah ouais, franchement, ça, je te jure, c'est super.
Ça, c'est top.
Alors, on sourit avec ces deux extraits, mais vous allez surtout vraiment comprendre le processus créatif de l'écriture d'un spectacle et puis tous les doutes qui vous poursuivent pendant un an avant le jour J, avant la première. Il y a un petit bonus dans ce documentaire. Jamel Debbouze parle d'Europe 1 et rend hommage à Diane Chenouda pendant plusieurs minutes. Je ne peux pas vous en dire plus, mais regardez ce documentaire. C'est à 23h05 sur M6, après la diffusion directe du spectacle de Jamel Debbouze.
Rien que pour ça, on va regarder ce documentaire. Merci beaucoup. 17 minutes de gagné. Merci, Baroque.
Europe 1.
À suivre, les amis, rencontre avec le Blob. Un organisme sans cerveau, informe, mais qui se nourrit. Mystère de la nature qui fait son entrée aux eaux de Vincennes. L'Or d'Autriche, ultime concurrente du jour, nous raconte. Et le problème, quand L'Or d'Autriche est en compétition, c'est que les autres journalistes, tellement émerveillés de se retrouver face à leur idole, comme les joueurs de foot qui, un soir, se retrouvent à devoir défendre sur Ronaldo, perdent de vue leur objectif, c'est-à-dire gagner pour se vautrer dans la contemplation. Lacroix, dès qu'il entend sa voix, ça l'émeut.
À quelques mètres de la plage de Juno, tous les pays rassemblés.
J'adore L'Or d'Autriche.
C'est la cornemuse ?
Non, c'est L'Or d'Autriche.
Il serait capable de voter pour elle, mais ne votez pas pour elle, vous êtes en compétition, Lacroix.
J'adore L'Or d'Autriche.
Mais oui, mais...
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, spécial Halloween, continue. 2 heures en compagnie d'un invité d'honneur qui souvent, comme Olivia Ruiz hier, n'emmène pas large, car Halloween ou pas, j'ai toujours dans le regard cette étincelle lubrique qui faisait dire à ma première petite amie en 5e, arrête de me regarder comme ça, on dirait Émile Louis qui part en classe verte.
Alors on va arriver au bisou sur la fesse là. Vous êtes en train de m'amener ça discrètement, Mathieu ?
Oh, vous traitez des intentions pareilles, moi, un être si pur. Aujourd'hui, c'est Maxime Chatham qui nous accompagne. Il publie un roman encore plus flippant que Mon regard, Insectes, chez Albin Michel. Qu'est-ce qu'il y a, Eva Rock ?
Vous montrez le livre à l'envers.
Je montre le livre à l'envers, effectivement, ce qui n'a aucun sens sur Europe1.fr, si vous nous suivez.
C'est un nouveau concept, le livre à l'envers.
Maxime Chatham, vous êtes assez actif sur Twitter. Vous avez notamment rappelé la sortie du dernier livre de votre collègue que nous avons reçu ici même, que nous aimons beaucoup, Bernard Werber. Vous avez l'air extrêmement sympathique avec les autres auteurs de romans. Moi, j'imaginais bêtement qu'il y avait une sorte de compétition, de guéguerre entre vous sur les chiffres de vente. Bernard Werber, vous citiez hors antenne Guillaume Musso, qui apparemment est extrêmement sympathique aussi, que vous aimez beaucoup.
Ouais,
il n'y a aucune compétition entre vous, c'est-à-dire que...
Bah, non, parce que moi, en tant que lecteur, j'aime bien avoir le choix. S'il n'y avait qu'un seul polar qui sortait chaque mois, je serais malheureux. Donc, en tant que romancier, ça me paraît logique, ça me paraît normal. Il en faut pour tous les goûts. Puis, enfin, on va pas se mentir, quand vous vendez plein de bouquins, pourquoi être jaloux ?
Oui, c'est vrai.
Enfin, je veux dire, moi, je suis dans une position confortable, je fais le métier dont je rêve. Mes bouquins, les gens les lisent et du coup, je m'entends hyper bien parce que avec les autres romanciers, parce qu'il faut quand même imaginer qu'on fait un métier hyper solitaire. Qui peut mieux comprendre un romancier qu'un autre romancier ? Donc on va pas se faire la guerre, au contraire, on va partager, on va discuter, on se comprend. Donc Le tout, c'est de se rencontrer, parce que quand on est enfermé 8 heures par jour dans un bureau, c'est pas évident.
Mais vous rencontrez quand d'ailleurs ?
Dans les salons ?
En prison.
Justement, ben vous ne croyez pas si bien dire, vous animez des ateliers dans les prisons, j'ai lu. Et je crois qu'un jour, un des détenus, à la lecture d'un de vos romans, vous a dit « Vous êtes un grand taré, vous !»
Oui, oui, oui.
Ça, c'est inquiétant quand même.
Oui, ben, il était là lui-même pour meurtre, d'ailleurs. Ah, okay. Là, il m'a dit « Vous me faites flipper, monsieur Chatham. C'est horrible ce que vous écrivez. Oui, bah, oui, oui.
Ça, pour puiser l'inspiration ou
non,
pour,
Non, surtout qu'en plus, moi, je demande vraiment à ce que, normalement, je ne suis pas censé savoir pourquoi ils sont là. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Non, non, j'y vais juste pour partager mon plaisir d'écrire parce que je crois que en tant que citoyen, on a tous un truc à faire, un rôle à jouer, etc. Et que quand on a la chance d'avoir du succès, c'est bien d'essayer de redonner un minimum de son temps, de son énergie, de ce qu'on sait faire là où on peut être utile.
Et en plus, il est sympathique. Face à vous, Maxime Chatham, une des plus performantes journalistes d'Europe 1 qui va peut-être vous fournir clé en main l'idée de votre prochain roman. Puisqu'en effet, Lord Autriche, un être mystérieux, informe et dépourvu de cerveau, mais bien vivant, a fait son entrée aux eaux de Vincennes.
Oui, le blob. Et je prends le risque avec cette chronique de ne pas vous parler de science-fiction, mais de science. Et ça va vous montrer aussi que le réel, parfois, justement, dépasse la fiction. Le blob, c'est vraiment une bestiole étrange, gluante, qui a plusieurs couleurs, qui a des blobs jaunes, rose fluo. On peut le faire changer de couleur aussi en lui donnant de la betterave, par exemple. Oui, absolument. Et ce n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Mais ça existe pourtant dans la nature depuis 500 millions d'années. Alors, visuellement, ça ressemble à une feuille de chou, hein, quelque chose d'un peu gluant, flasque, une espèce vivante vraiment surprenante. Alors, il se nourrit, mais il n'a pas de bouche. Il se déplace, mais il n'a pas de pattes, pas d'ailes, pas de nageoires.
Attends. Comment il se nourrit ?
En fait, c'est une cellule rampante qui se déplace 3-4 cm par heure, qui grandit chaque jour et qui va absorber la nourriture qu'il va croiser sur son chemin.
Il va aller jusqu'à Destin.
J'espère qu'il n'est pas sur les listes des invités.
Pardon, monsieur le président.
Alors, le blob, vous pouvez aussi le couper en morceaux et il grandit à nouveau, il se multiplie. Il est quasi immortel, mais il ne souffre pas quand vous le coupez parce qu'il n'a pas de cerveau, hein, donc pas de système nerveux.
Mais ouais. Il n'a pas de cerveau, mais est-ce que c'est un être vivant intelligent quand même ?
Alors oui, il est intelligent. Enfin,
quoi on peut être intelligent sans cerveau ?
Il n'a pas de cerveau, mais il est capable d'une forme d'intelligence. Et ça, c'est tout à fait fascinant. Il est capable, par exemple, de trouver la sortie d'un labyrinthe par le chemin le plus court. Il est capable de sélectionner sa nourriture. Il adore les flocons d'avoine, par exemple. Et il a une sorte de mémoire qui fait qu'il ne refait jamais plusieurs fois la même erreur. Par exemple, il déteste le sel. Et s'il y a une barrière de sel sur son chemin qui l'empêche de passer, il est capable de la contourner. C'est quand même assez fascinant ce qu'est capable de faire le blob. Ouais.
C'est invraisemblable. Mais à quoi il sert dans la nature, ce blob ? Qu'est-ce qu'il apporte ?
Alors, il est assez intéressant parce que, surtout d'un point de vue écologique, c'est un prédateur, un chasseur de bactéries. Il va digérer les bactéries et ensuite, il va rejeter des micro-éléments que les champignons, les plantes vont utiliser pour se nourrir. Donc, il a un rôle de nettoyeur un peu de la nature. Et il pourrait même être utile à l'homme. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que disent vraiment les scientifiques. On n'en est qu'au début des recherches, mais le blob a un système veineux très efficace qu'on pourrait copier peut-être. Et on pourrait même s'en servir pour apprendre à lutter davantage contre les bactéries ou même les cancers. Ça va jusque-là. C'est le début seulement des recherches. Mais c'est absolument fascinant. Et on trouve ça, disons, dans les forêts, hein, le blob. Il aime plutôt les ambiances. On en trouve, oui. Et puis, partout dans le monde, hein, des blobs tout à fait différents, ils aiment être dans des endroits plutôt sombres et humides. Voilà, donc plutôt dans les forêts, le blob.
Vous êtes en train de me dire que ça se trouve, j'ai déjà vu croiser un blob et dans ma vie, sans le savoir.
Sans doute jaunâtre, parce qu'en France, il y a surtout des blobs jaunes, et c'est possible. Faites attention, si vous voyez sur une branche d'arbre quelque chose d'un peu coloré, d'un peu gluant, c'est peut-être un blob.
C'est pour ça qu'elle avait un drôle de goût, cette poêlée de champignons. Là, il a fallu que je demande à quelqu'un qui s'y connaissait vraiment. Eva Rock.
Il est aux eaux de Vincennes maintenant, ce blob ? Il est aux eaux de Vincennes. Pour la première fois au monde, un zoo vient de permettre au public de voir un blob. Il est dans un vivarium et vous pouvez observer ça donc, sur des branches d'arbres aux eaux de Vincennes. Oui.
Il vient de manger les serpents de sa cage et il mesure 3 mètres de long.
Mais ça grandit très vite. Les scientifiques font vraiment attention là-bas à sa taille. Voilà.
Laure, vous avez beau être la meilleure, vous n'y couperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Jérôme Lacroix.
C'est dur de faire poser une question vache à l'heure de triche.
Alors, écoutez, oui, c'est très dur. Sur vous, mon gars.
J'ai quand même une question. Il y a un sujet, me semble-t-il, que vous n'avez pas abordé. J'ai peut-être lu des grosses bêtises, mais j'ai lu quelque chose de très surprenant sur le sexe des blobs.
Oui.
Ça, évidemment.
Non, alors, mais vraiment, c'est
étonnant. Le blob a 720 sexes différents.
Waouh.
Voilà, 720 ça sexes différents faveur, pour les blobs. Oui, tout à fait surprenant. Oui.
Mais attendez, moi, j'en connaissais que le sexe de l'homme et le sexe de la femme. Comment on peut en avoir
Il y a une fusion qui peut se faire, mais effectivement, il y a tellement d'espèces différentes que jusqu'à maintenant, 720 sexes différents étaient repérés. Oui,
et comment se reproduit le blob?
Alors, il fusionne, il se reproduit.
Oh, comme dans Dragon Ball Z.
Quand deux blobs se croisent, ils peuvent fusionner, c'est quand même assez fou. Mais effectivement, il se reproduit quand deux blobs aussi se croisent. Mais voilà, 720 sexes différents, c'est assez étonnant, oui.
Maxime Chatham, vous connaissiez le blob, l'existence de cet animal?
Absolument
étrange.
Pas, mais ça ferait un bon sujet de livre.
N'est-ce pas, hein.
Il aurait beaucoup à écrire.
Ah, j'ai adoré votre
blob.
Chronique, mais si vous aviez pu rajouter, ça aurait été génial. Au moment où vous parlez de son appétit, qu'il adore manger de la chair humaine, là, j'aurais adoré.
Mais ça se trouve, il aime ça aussi. On enquêtera. Son nouveau roman Insectes est disponible chez Albin Michel. Maxime Chatham passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, si comme moi, lorsque vous vous décidez à cuisiner pour vos amis, ça se termine souvent en film d'horreur. Vos convives se tenant le ventre, certains partant chercher de l'imodium dans la salle de bain, d'autres parents au plus pressé en proposant de refroidir le plat sur un rebord de fenêtre.
C'est bête, je crains d'avoir été maladroit, monsieur Brescovich.
Ne revivez plus ce genre de cauchemar. Écoutez Delis in Extremis, la recette dernière minute qui vous sauve la mise quand vous n'y connaissez rien.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage spécial Halloween continue, 2 heures plus festives et déjantées que jamais, même si visiblement certains journalistes n'ont pas attendu Halloween pour commencer à picoler. CF Jérôme Lacroix, notre expert sport, qui dès hier, dans la matinale de Mathieu Béliard, présentait des signes inquiétants d'alcoolisation.
Et si c'était aujourd'hui le tour de Corentin Moutet? Il a 20 ans, opposé.
Ah ouais, putain, Corentin Moutet, Moutet, Corentin Moutet, Moutet.
Oui, heureusement, dans cette émission, on ne compte pas que sur le professionnalisme des journalistes. Un invité d'honneur est là pour relever un peu le niveau. Aujourd'hui, il a choisi Europe 1 pour fêter Halloween. C'est Maxime Chatham qui nous accompagne. Insectes, c'est le titre de votre nouveau roman. Des romans. Vous en avez déjà vendu plus de 7 millions en France. Vous êtes considéré par beaucoup comme le Stephen King français. Est-ce que, question notoriété, vous êtes rassasié? Ou bien, quand vous voyez que le Goncourt va être décerné lundi, vous vous dites, tiens, peut-être que j'aimerais bien un prix moi aussi. En plus de tout, en plus des ventes.
C'est ça. Non. Bah, j'écrirai autre chose si j'ai cherché un prix. Non, enfin la notoriété, moi je cours pas après. Justement, tout à l'heure vous évoquiez mon parcours de comédien quand j'étais adolescent. Je
un
suis,
bon parcours.
Oui, c'est ça. Je suis très heureux que vous ayez pas retrouvé d'images, surtout à la radio d'ailleurs.
Ça aurait été très fort. On aurait diffusé à la radio les images, ça aurait été un scoop mondial.
Non, en fait, je suis pas très à l'aise avec le succès. D'abord, j'ai culpabilisé très longtemps, moi, d'avoir du succès, de me dire pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi je gagne de l'argent alors que des types qui écrivent des bouquins formidables et qui galèrent, il y en a énormément qui mériteraient du succès. Donc, il a fallu passer outre. Et puis, la notoriété, je la cherche pas. J'en ai pas très envie. Et c'est l'avantage d'être marié à une femme de télé. C'est que ça retombe sur elle, en fait. Dans la rue, on la reconnaît. Moi, en général, je prends les enfants, on va se balader.
Oui, puis surtout, en tant qu'auteur, on vous reconnaît pas forcément. Dans votre ouvrage, les insectes ont le mauvais rôle, mais à la toute fin, vous nous rappelez que, je cite, « leur biomasse ne cesse de diminuer année après année. Bien sûr, l'activité humaine est le principal responsable de cette extinction programmée. Le résultat de cet amargédon écologique, comme l'appellent certains scientifiques, fournirait un bon sujet de roman d'horreur autour d'une planète devenue non viable pour notre espèce. Sauf que ça ne sera pas une fiction si on continue sur le même rythme. »
C'est vrai, c'est très vrai.
Donc, quelque part, bon, les insectes font peur là-dedans, mais les insectes, on en a besoin. Il y a un message dans ce livre.
Mais bien sûr, oui. Bah, c'est-à-dire que les insectes, en effet, j'aime bien jouer avec pour faire peur. Mais dans les faits, s'il n'y avait pas d'insectes et s'il y en avait beaucoup moins, la planète serait invivable. Ce serait un charnier qui nous débarrasse de tout ce qui meurt, les animaux, même les végétaux en décomposition, etc., qui permettent à la Terre de se fertiliser, etc., aux fleurs de se reproduire. Bah, ce sont les insectes. Sans eux, au sens large, parce qu'on dit insecte, alors souvent les gens, on parle d'araignée, disent c'est un insecte. Dans les faits, c'est pas un insecte l'araignée, mais au sens générique, on va dire ça comme ça pour simplifier les choses, dans leur grand ensemble, s'il n'y avait pas d'insectes, l'espèce humaine ne pourrait pas survivre, clairement. Et d'ailleurs, la survie des insectes, outre le facteur écologique fondamental pour notre survie, peut être une réponse peut-être à terme sur toutes les problématiques qui vont venir avec la surpopulation, notamment au niveau de l'alimentation. On pourra peut-être manger des
insectes.
Vous
avez déjà goûté des insectes, Maxime Chatham ?
Ça m'est arrivé, figurez-vous.
Et alors ?
Ça dépend lesquels.
Je vois notre expert gastronomique Olivier Pouls en régie qui nous fait le pouce levé sur les insectes. J'aimerais bien te voir bouffer des insectes, tiens, Olivier. On verra ça tout à l'heure. On t'en mettra une fois pour rigoler. Maxime Chatham, est-ce que vous auriez pu être flic ? Est-ce que vous auriez pu être enquêteur ? Ça aurait été un métier qui vous aurait comblé aussi ou...
À une période de ma vie, certainement, parce que justement, j'avais pas de vie, que c'était l'écriture, etc., et que les flics doivent donner tellement de leur temps, de leur énergie pour parvenir à leur fin, que ça aurait été possible. Maintenant que j'ai une vie de famille et que je m'épanouis à travers ça, c'est compliqué parce que c'est pas très conciliable. Hein. Les flics, les heures sup, c'est permanent, les soirées, les week-ends, les vacances gâchées par leurs affaires. Donc le défi intellectuel m'aurait plu, mais la réalité du quotidien de flic est quand même beaucoup plus complexe, parfois moins glamour que ce qu'on peut voir dans les fictions.
Oui, mais fini de se la coller douce dans votre petit bureau, parce que comme je vous l'ai dit, vous allez faire du cinéma bientôt, vous serez réalisateur, et donc ça sera des longs tournages, très loin à l'étranger pendant longtemps. Faustine ne va pas être contente. Son dernier roman, Secte, Insecte, est disponible chez Albin Michel. Maxime Chatham est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, quiconque a goûté un jour dans sa vie le poisson à la tahitienne d'Eva Rock le sait. L'horreur, ce n'est pas qu'au détour d'un roman qu'elle surgit. Le docteur des SOS Médecins qui m'avait recueilli ce soir-là n'oubliera jamais ce qu'il a vu. Une intoxication terrible.
Avec vomissement et jet de bave. À ce stade des choses, tout le système digestif se bloque en s'accompagnant d'une incontrôlable flatulence. Jusqu'au moment où le moribond est réduit à une boule de gelée informe et tremblante.
C'est pour que personne ne revive jamais un tel scénario que nous avons créé, Délice in Extremis, une recette de dernière minute conçue par un vrai professionnel. Ce sera juste après Clara Luciani, nue sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures dédiées à vos zygomatiques, votre cerveau, mais aussi vos délicates papilles. Et ce soir, il n'y a pas de picard qui tienne, c'est Halloween. Il faut marquer le coup avec une recette à base de petits marrons que vous aurez préparé vous-même avec amour grâce à notre expert gastronomique Olivier Pouls. Olivier qui vous propose également une astuce en plus pour surprendre votre femme. Vous déguisez en clown naturiste, c'est-à-dire un masque de clown flippant et rien en dessous.
Quand votre femme va rentrer dans la cuisine et qu'elle va vous voir à quatre pattes devant le four, ça fait toujours un truc.
Mais oui, oui, sacré soirée d'Halloween en perspective chez les Pouls.
Vive Halloween.
Mais on va plutôt commencer par la recette, Olivier. Une recette à base donc de potimarron et surtout pas de citrouille.
Ah non, gardez-vous de manger de la citrouille parce que là c'est urgence ou en tout cas SOS médecin comme vous le disiez tout à l'heure, garantie. Ça ne se mange pas, ce n'est pas comestible. Alors ce que j'ai rapporté aujourd'hui à Maxime, c'est un petit marron. Et cadeau, je vais évidemment lui donner la recette qui va avec. Et il va en plus pouvoir épater Faustine, sa femme, qui a quand même animé le plus grand pâtissier pendant longtemps sur M6, parce qu'il va pâtisser. Et je vous prends le pari de faire une recette, un dessert à base de petit marron.
Un dessert,
ouais, un petit marron sucré. Absolument. Une tarte sucrée au potimarron, c'est délicieux. Je prends l'engagement que vous n'allez pas le regretter. Et c'est en plus hyper facile à faire.
Alors racontez-nous.
Alors ce potimarron que je vous ai donné là, vous allez le couper en morceaux, l'évider, enlever les pépins, récupérer la chair.
Déjà, et en faire rien une que purée. Ça, ça prend 3 heures.
Mais non, mais non, il y en a pour 2 minutes. Avec un bon couteau, un petit peu d'huile de coude, hop, c'est parti.
Comme une bonne autopsie.
Exactement, comme une bonne autopsie. Vous allez l'autopsier, mais en plus, le cas là, vous allez le cuire tranquillement dans un petit peu d'eau, de manière à ce que la chair soit bien ramollie, et vous allez en faire simplement une purée. À cette purée, vous allez rajouter un peu de crème liquide, 15 centilitres, 100 g de sucre, 2 œufs battus et une ou deux cuillères à farine, cuillères à soupe de farine, ce qui va permettre de lier l'ensemble. Une pâte à tarte sablée, ça, je vous autorise à l'acheter éventuellement.
Ah bah,
que vous aurez.
Gentil.
Bah oui, quand même, on parle d'une recette facile, hein, pas des 12 travaux d'Astérix.
Donc... je vois que monsieur a des références. Normalement, c'est plutôt Hercule, mais bon, évidemment, vous c'est Astérix directement.
Donc, vous allez piquer cette pâte sablée, la mettre évidemment dans un plat qui convient, qui va au four, et vous allez mettre cet appareil par-dessus. On enfourne pendant 30-35 minutes dans un four à 180 degrés, et on a une tarte sucré au potimarron, vraiment bluffante.
Que les enfants vont adorer.
Ah, que les enfants vont adorer, que tout le monde va adorer, parce que je vous engage à la faire et on débriefe lundi. Si l'un de vous n'a pas aimé, je suis prêt à être lapidé en place publique.
Alors attention, pas de masque de clown avec les enfants.
Non, hein. Bien sûr. Et puis le masque de clown pour manger, c'est pas pratique.
c'est assez limitant. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.
Oui, pour une recette de blob.
Ah oui, le blob à l'unilatéral.
Exactement.
Magnifique.
Europe 1.
À suivre. livre Maxime Chatham, Les meilleures choses ont une fin, même l'équipée sauvage spéciale Halloween. Or, on me signale en régie que oui, le dénouement approche.
Il arrive à la vitesse d'un pétard allumé. Leur computer est en l'air, leur pilote dans le trou noir et ils volent sur commande manuelle.
Ouais, j'espère qu'on a des airbags. À tout de suite pour les résultats du vote.
L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Les amis, nous y voilà, l'équipée sauvage spéciale frisson d'Halloween s'achève. On n'avait pas flippé comme ça depuis l'épisode 76 de... Casper contre Scooby-Doo, ça fait bien flipper. Mais l'heure est venue de dévoiler qui a été élu chroniqueur du jour. Mathieu Charrier, Lord Autriche, Jérôme Lacroix ou bien encore la mystérieuse Amanda. Mathieu, un pronostic ?
Le transgenre est hyper bien.
Oh non, Mathieu, non ! Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Eh bien, vous venez de prononcer son nom. C'est Mathieu Charrier qui remporte les 2 points des auditeurs.
Mathieu Charrier, avec un sujet assez gagnant sur les coulisses de films d'horreur, où l'horreur était aussi sur le plateau. C'était pas mal, effectivement. 2 points pour Mathieu Charrier. Pour ma part, je donne mon point aujourd'hui. J'hésite. Il y avait un très gros niveau.
Ah oui.
Mais je l'accorde, une fois de plus, à Lord Autriche pour le blog. C'était si bien raconté. Et en plus, je sais que je vais pouvoir aller, du coup, une 25e fois aux eaux de Vincennes avec mon fils, puisqu'il y a une nouvelle activité à découvrir. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Maxime Chatham, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Tout le monde mériterait, parce que les chroniques étaient passionnantes. Maintenant, vous savez, le monde est injuste, il est fait de copinage. Et comme j'aime beaucoup Eva Rock, je donne ma voix à Eva.
Non, non.
Pas.
Même pas. Vous
mais je
pas
donne ma voix parce que je suis l'invité. Bon sang.
Elle est hors compétition. Qu'est-ce qu'on fait en régie? C'est impossible.
C'est impossible.
Vous avez les points du cœur, mais
je donne ma voix à Jérôme parce que les zombies qui courent, j'adore.
Jérôme Lamagoire, on remporte la 49e journée.
C'est une toute petite victoire.
Mathieu Charrier, il est jaloux, il est mauvais perdant. Et Amanda alors? Amanda, vous avez eu 0 points.
Oh, j'ai souvent été humilié dans ma vie, mais toujours avec ma permission.
On vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous, Amanda. On vous laisse retrouver le calme et la sérénité de votre manoir tropézien. C'était la 49e journée de l'équipée sauvage. On remercie encore Maxime Chatham d'avoir joué le jeu durant ces 2 heures. Son dernier roman, Insectes, est disponible chez Albin Michel. Merci également à mes journalistes, Eva Rock, Lord Autriche, Jérôme Lacroix, Amanda bien sûr. L'équipe est sauvage, revient demain 16h.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.